VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériac en direct de Washington DC. Il est 19h30 temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 décembre 2017. Au sommaire ce soir, République centrafricaine, accord de paix entre deux factions rivales. Au Libéria, le vice-président sortant Joseph Boakai demande un nouveau report du second tour. Au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa promet au cadre de la ZANU-PF un nouveau chemin au service des rêves du pays. Rex Tillerson, à l'ONU, veut un dialogue avec Pyongyang, à condition que la Corée cesse de manière continue ses menaces. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. En République centrafricaine, alors que des combats sont signalés dans certaines régions, deux groupes armés rivaux ont signé ce vendredi un accord de cessation des hostilités. La signature a eu lieu à Bouar, dans le nord-ouest du pays. Les précisions de Freeman Sipila.
Signé en présence de la MINUSCA et des autorités locales, l'accord prévoit l'arrêt immédiat des hostilités entre les deux groupes, notamment anti-Balaka et 3R, du chef rebelle camerounais Abbas Siddiqui. Les deux milices opèrent dans le nord-ouest de la République centrafricaine et se sont affrontées à plusieurs reprises dans la préfecture de la Nanamombéré. Chaque partie se revendiquait protectrice d'une communauté. Or, en réalité, elle se battait pour le contrôle du territoire et le vol de bétail. Cet accord, qui n'est pas le premier du genre entre groupes armés en Centrafrique, a suscité de l'espoir parmi la population. L'inquiétude demeure quant à l'application des clauses, car les mouvements armés sont connus pour le non-respect de leurs engagements. Interrogé par VOA Afrique concernant le suivi de l'accord sur le terrain, chaque camp indique avoir mis en place un dispositif pour sensibiliser ces éléments. Rappelons que le FPRC et les anti-Balaka, signataires d'un accord de cessation des hostilités en octobre dernier, s'affrontent depuis plusieurs jours à Ipi, Indassima, dans la préfecture de la Waka. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale fixe à 10 millions de dollars le montant des réparations destinées aux enfants soldats de la milice de l'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga. 425 victimes ont été retenues, mais les juges estiment que des centaines, voire des milliers de victimes additionnelles ont été affectées. Le préjudice de chacune des 425 victimes a été évalué à 8 000 dollars, soit un total de 3,4 millions. La CPI a ensuite alloué 6,6 millions pour d'autres victimes potentielles. Génocide rwandais, le général James Kabarebe, ministre de la Défense, a refusé d'être confronté à Paris aux nouveaux témoins qui accusent le régime actuel. Il ne s'est pas rendu à la convocation du juge d'instruction hier à Paris. Il est inculpé dans l'enquête française sur l'attentat en 1994 contre le président Habyarimana, prélude au génocide. James Muyandinda affirme avoir eu la garde au quartier général de l'ex-rébellion du FPR de deux missiles qui ont, selon lui, servi à abattre l'avion de Habyarimana sur ordre de son chef, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Cameroun, l'armée a mené une opération contre des séparatistes présumés dans une localité du sud-ouest anglophone, faisant des morts chez les assaillants. D'après les autorités, un groupe de sécessionnistes a attaqué la localité de Dadi, jeudi, dans la zone de Mamfé, épicentre de la crise anglophone, et l'armée a repoussé l'attaque. Jusque-là, il n'y a pas de bilan officiel ni de revendication. Au Cameroun toujours, Patrice Ganang, écrivain poursuivi notamment pour apologie de crimes et menaces, a plaidé non coupable lors de la première audience de son procès à Yaoundé. L'audience a duré à peine 2 minutes. Lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Le président nigérien Mahamadou Issoufou réclame un financement et une plus grande implication de l'ONU. La menace terroriste est une menace internationale. Le combat que nous faisons dans le Sahel, nous le faisons aussi pour l'Europe, pour le monde entier, a déclaré Mahamadou Issoufou. Monsieur Issoufou a notamment regretté la faible portée de la résolution de l'ONU qui autorise sa mission au Mali à apporter sans coup pour elle un soutien logistique et opérationnel à la force du G5 Sahel. Le Gabon a annoncé avoir rejoint le processus de Kimberley, régulateur international en matière d'exportation de diamants. Les autorités entendent faire du secteur des mines un vecteur important de la relance économique gabonaise. Le processus de Kimberley, entré en vigueur en 2003, est un système de certification internationale chargé d'éliminer du marché les diamants sales, servant à alimenter les guerres et rébellions. Il fixe les conditions d'exportation des diamants pour ses 82 États membres. Au Libéria, le vice-président Joseph Boakai demande un nouveau report du scrutin qui doit l'opposer à George Weah le 26 décembre. On fait le point avec Raïssa Girondin.
Alors que les Libériens attendent avec impatience le second tour du 26 décembre, l'un des candidats en lice, le vice-président Joseph Boakai, s'est rendu à la Cour suprême pour demander un nouveau report. Il avait pourtant officiellement lancé sa campagne pour ce second tour qui va l'opposer à George Weah, ancienne vedette du football. Son parti affirme que la commission électorale nationale n'a pas encore révisé les listes électorales. C'était l'une des conditions posées par la Cour suprême pour la tenue de ce scrutin. Le parti de Boakai propose que la nouvelle date soit définie conjointement par le Sénat et la Chambre des représentants. Ce dernier recours intervient au lendemain de la décision du parti de Charles Bromskine, arrivé troisième, d'apporter soutien à George Weah.
Lors du congrès de la ZANU-PF, le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a fustigé les ratés de l'ancien régime et promis un retour aux sources. Nathalie Barge.
S'il a rendu hommage pour la forme à Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa n'a pas manqué de critiquer son bilan. Les règles idéologiques du parti ont été bafouées. Ce n'était plus le parti auquel vous et moi avions promis fidélité, a-t-il déclaré devant des centaines de délégués. Depuis son investiture, le nouveau président a promis de redresser l'économie du pays, de créer des emplois et de faire revenir les investisseurs étrangers. Les élections seront libres et justes, a par ailleurs assuré celui qui a déjà été investi candidat de la ZANU-PF pour la présidentielle de 2018. Mais après la nomination de deux généraux au gouvernement, l'opposition s'inquiète désormais d'une militarisation de l'état-major du parti au pouvoir.
74 réfugiés érythréens et somaliens, dont 51 enfants, ont été évacués de Libye vers Niamey au Niger. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Sachez également qu'une ONG appelle les autorités tunisiennes à effectuer des prélèvements ADN sur les migrants retrouvés morts en mer et à créer une base de données afin qu'ils puissent un jour être identifiés et que les familles puissent faire leur deuil.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a souligné aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU sa volonté de garder les lignes de communication ouvertes pour régler pacifiquement la crise avec la Corée du Nord, tout en insistant que Pyongyang devait cesser son comportement menaçant pour qu'un dialogue puisse avoir lieu. Salwa Jafari.
Rex Tillerson fait ainsi marche arrière par rapport à son projet de discours distribué à l'avance aux journalistes en début de semaine. Il y avait parlé de dialogue sans préconditions. Dans son discours devant l'ONU, il dit aujourd'hui qu'un dialogue avec Pyongyang n'aura lieu qu'en cas de cessation soutenue du comportement menaçant de la Corée du Nord.
Les États-Unis ne permettront pas au régime de Pyongyang de tenir le monde en otage. Nous continuerons à tenir la Corée du Nord responsable pour son comportement irresponsable et dangereux.
La Corée du Nord doit faire en sorte de mériter son retour à la table des négociations, a-t-il rajouté.
L'OTAN demande à la Russie de répondre de manière substantielle et transparente aux vives préoccupations américaines sur des systèmes de missiles de croisière terrestre qu'aurait déployé Moscou. Les États-Unis ont à plusieurs reprises dénoncé le déploiement par la Russie de missiles qui, selon les experts, pourraient être facilement dotés d'une tête nucléaire. Moscou, de son côté, nie ces allégations. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir démantelé une cellule du groupe djihadiste État islamique qui préparait des attentats demain à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie. Ce groupe planifiait notamment un attentat suicide ainsi que des tueries et des explosions dans des endroits très fréquentés. Au total, 7 membres de la cellule du groupe État islamique ont été arrêtés. Au Yémen, 28 rebelles ont péri ces dernières 24 heures dans des raids de la coalition arabe sous commandement saoudien. C'est ce que rapportent des sources de sécurité et médicales. Enfin, au Proche-Orient, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans la bande de Gaza pour protester contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Des dizaines de Palestiniens ont en outre été blessés par balles lors de heurts avec des soldats, selon le Hamas qui contrôle Gaza. Sachez également qu'un Palestinien portant autour de la taille un dispositif ressemblant à une ceinture d'explosifs a attaqué des policiers israéliens à la sortie de Ramallah en Cisjordanie occupée et a été atteint par balles, selon des photographes de l'AFP. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Au Sénégal, une grève des aiguilleurs du ciel paralyse le nouvel aéroport international Blaise Diagne une semaine après son inauguration. Le syndicat sénégalais des aiguilleurs du ciel exige de meilleures conditions de travail, plus de temps de repos et des solutions pour le transport des agents, car l'aéroport est à Dias, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, et il n'y a pas encore d'hôtel dans les environs. Au Burundi, le gouvernement se lance dans le crowdfunding pour financer les élections 2020. Depuis la crise politique liée au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, la plupart des bailleurs de fonds étrangers ont suspendu leur aide. L'usage du crowdfunding étant inhabituel pour un État, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, a précisé que cette contribution est volontaire et ne devrait pas être considérée comme une taxe. Les fonctionnaires, les ménages et les étudiants burundais sont invités à participer au financement des prochaines élections. En Afrique du Sud, 22 millions de dollars destinés aux funérailles de Nelson Mandela ont été détournés selon l'Organisme national de lutte contre la corruption. Après avoir vérifié les documents comptables, l'organisme a décelé plusieurs malversations dans l'organisation des cérémonies d'inhumation de Nelson Mandela, notamment des factures gonflées et des attributions frauduleuses de contrats.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinon. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Blessure d'Eric Bailly, le défenseur international ivoirien de Manchester United.
Oui, blessé à une cheville, le joueur va être absent 2 à 3 mois. C'est ce qu'annonce ce vendredi son entraîneur José Mourinho. Le défenseur formé à l'Espagnol Barcelone s'était blessé avec la Côte d'Ivoire en octobre et cette blessure ne s'est jamais complètement guérie. Titulaire indiscutable cette saison, l'ivoirien avait rejoué avec Manchester United mais n'est plus apparu sous le maillot des Red Devils depuis le mois de novembre.
Ibengue, maintenu à la tête des Léopards de la RDC.
Éliminé avec la RDC de la Coupe du Monde 2018, Florent Ibengue garde néanmoins la confiance de ses dirigeants. Constant Omari, le président de la FECAFOOT, avait confié à VOA Afrique qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait se séparer de son sélectionneur. Chez nos confrères de Jeune Afrique, Florent Ibengue affirme que c'est une marque de confiance qu'il ne pouvait pas refuser. Il a donc accepté de continuer de travailler. Prochain objectif pour celui qui est toujours l'entraîneur de l'AS Vita Club, qualifié la République démocratique du Congo pour la CAN 2019.
Zanzibar en finale Coupe CECACAF.
Oui, l'Ouganda qui a été battu en demi-finale 2-1 par Zanzibar qui accède à la finale. Hier, le Kenya, pays organisateur, avait battu le Burundi 1-0 en prolongation. On aura donc une finale Kenya-Zanzibar.
En France, Monaco peut prendre la deuxième place ce soir.
Le champion en titre à la lutte avec Lyon et Marseille pour la deuxième place de la Ligue 1 peut prendre de l'avance en cas de succès ce soir contre Saint-Etienne. L'intouchable Paris Saint-Germain, déjà sacré champion d'automne avant de se rendre à Rennes. Enfin, dimanche, le choc Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Le champion NBA en titre Golden State, toujours privé de son meneur vedette Stephen Curry, a enchaîné une 8e victoire consécutive en dominant Dallas 112-97, en signant son 59e triple-double de sa carrière. La superstar de Cleveland, LeBron James, a fait mordre la poussière aux Lakers de Los Angeles 121-112.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Capture le Mali. Des centaines de personnes ont marché dans les rues de Bamako pour exiger la tenue du procès des militaires et paramilitaires poursuivis dans l'affaire dite des bérets rouges. Les manifestants répondent ainsi à l'appel du collectif des épouses et parents des militaires et paramilitaires qui sont en détention depuis bientôt 4 ans. Les marcheurs ont demandé plus de liberté, de justice et souhaitent la libération du général Amadou Ayassanougo et ses compagnons. Sur place, Kassim Traoré.
C'est par petits groupes que les marcheurs se sont réunis à la place de la liberté. Ils ont lancé des cris de cœur pour clamer leur indignation face à ce qu'ils qualifient de déni de justice commis par les magistrats. Dambélé Madina Sissoko, président du collectif des époux et parent des militaires et paramilitaires poursuivis dans l'affaire dite des bérets rouges.
Quand vous êtes victime d'un cas, si vous savez que vous êtes impuissant devant la situation, il y a des méthodes pour montrer ton mécontentement. On a décidé de marcher.
La longue marche est partie de la place de la liberté pour aller vers le rond-point du cinéma Babemba avant de gagner le boulevard de l'indépendance. Assa Boli, restauratrice, est venue de Ségou.
Normalement, le jugement ne doit pas être tardé. Ce que je souhaite, je veux qu'on le juge et qu'on le libère.
Des jeunes marcheurs ont parcouru les rues de Bamako avec un poster géant du général Amadou Ayassanougo. Et toutes les épouses des militaires détenus ont participé à la marche. Konare Lancia Diara, épouse du capitaine Amadou Konare.
On ne sait pas pourquoi le procès est bloqué. On nous avait dit 45 jours. Après les 45 jours, 3 mois. Maintenant, on est, je peux dire, une année. On veut qu'on les juge maintenant sans délai pour les libérer. Et les ministres qu'on a eu à rencontrer ont dit qu'ils ne peuvent pas demander directement au président de la République, que le dernier mot revient au premier ministre. C'est au premier ministre de dire la vérité au président.
Plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques, des leaders d'opinion ont battu les pavés aux côtés des épouses des militaires détenus.
Cette marche-là a pour objectif de faire comprendre aux autorités qu'on doit respecter la loi, parce que la loi en vigueur au Mali dit qu'un détenu de 3 ans doit être libéré en liberté provisoire avant la date de son procès. C'est ce que nous réclamons pour ces militaires-là.
Et de 91 à nos jours, nous avons assisté au jugement d'un ancien président et que cela ne peut pas empêcher ce procès-là. Donc nous exigeons naturellement sans condition et sans délai ce qu'on appelle l'ouverture de ces procès ou les libérer et en attendant que la justice ait besoin d'eux.
Après 1 heure, les marcheurs sont arrivés au niveau de la primature. Les épouses et parents des militaires et paramilitaires ont été reçus par les chefs du gouvernement à huis clos, Dambélé Madina Sissoko.
On vient de recevoir le premier ministre. Il était accompagné de 7 ministres. Nous nous sommes appesantis. La réconciliation, un Mali uni et indivisible, une armée réconciliée, à une justice claire et saine. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème. Il mettra tout en œuvre pour pouvoir nous recevoir dans les prochains jours et nous dire ce qui va sortir des discussions à l'intérieur du gouvernement.
Le collectif a demandé au Premier ministre l'indemnisation de toutes les victimes des événements du 30 avril au 1er mai 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
« Selon un rapport d'un centre de recherche américain, les puissances alliées du Tchad, comme la France ou les États-Unis, qui s'appuient sur le pays pour lutter contre le djihadisme en Afrique, risquent d'encourager l'instabilité politique et la violence en soutenant le régime tchadien. Solange Niamoulissa a joint Marielle Desbos, chercheure en sciences politiques à l'université de Paris-Nanterre, co-auteur du rapport Débis Tchad.
Le Tchad est devenu depuis quelques années l'un des partenaires privilégiés des États-Unis, mais aussi de la France, puisque le Tchad est un des pays qui intervient dans la région contre des groupes armés djihadistes, au Mali, aussi contre Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Et ce nouveau statut régional et international a donné une forme de rente diplomatique à Idriss Déby et au régime. Les alliés du Tchad ont tendance à faire passer passer sous silence des pratiques peu démocratiques à N'Djamena.
Idriss Déby, bras armé contre le terrorisme en Afrique, comme vous venez de le souligner. Alors pourquoi, au pouvoir, il peut être une source d'incertitude et de violence ?
Des pratiques autoritaires du régime, mais aussi il faut savoir que Idriss Déby a pris le pouvoir par les armes il y a déjà 27 ans. Il a été réélu comme président en 2016, mais cette élection a été contestée par les opposants qui parlent de fraude. On est donc très loin d'une démocratie modèle sur le continent.
Pourquoi dites-vous que l'avenir du Tchad est incertain ?
C'est un pays qui est confronté aujourd'hui à plusieurs difficultés. Il y a tout d'abord les menaces régionales sur la sécurité, mais c'est aussi un pays qui est confronté à une crise économique très grave. Depuis 2014, le cours du pétrole a chuté et ça a des conséquences sur une économie qui est très dépendante de l'argent du pétrole. Depuis cette crise, les fonctionnaires ne sont plus régulièrement payés, les salaires ont baissé et ça suscite évidemment un fort mécontentement social. D'autant plus que les gens ont bien conscience que l'argent du pétrole a permis pendant des années à une certaine classe de s'enrichir, tandis que la vie quotidienne de l'immense majorité des gens n'a pas changé. C'est un pays où l'immense majorité de la population vit encore dans une grande pauvreté, notamment en zone rurale.
Quelles sont les recommandations que vous proposez ?
Ce n'est pas à nous de proposer des solutions, c'est aux Tchadiens de décider ce qu'ils veulent faire avec leur pays, avec la politique de leur pays. On a simplement souligné la nécessité de parvenir à un dialogue plus important au sein de la société tchadienne entre les différents acteurs politiques et sociaux du pays.
Marielle Desbos, chercheure en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, co-auteur du rapport Débis Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, s'apprête à élire son nouveau président, qui sera également son candidat pour les élections nationales de 2019. La conférence électorale du parti démarre dès demain, samedi. Parmi les 7 candidats en lice, 2 favoris, Nkosazana Dlamini Zuma, ex-présidente de la Commission de l'Union africaine et ex-femme du président Jacob Zuma, et Cyril Ramaphosa, actuel vice-président. Pour comprendre les enjeux de cette élection, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud.
C'est vraiment une situation, on anticipe avec beaucoup de drames les votes des délégués. Ce sont à peu près 5 000 délégués. Il y a eu des débats aujourd'hui, des contestations. Il paraît que ça va favoriser encore la position du candidat Cyril Ramaphosa. J'estime qu'il a maintenant un avantage d'à peu près 15%. Demain, le secrétaire général nous assure qu'il y aura le vote, un vote secret et un audit du comptage pour assurer tout le monde. Il y a une dernière tentative du côté de l'association des anciens combattants pour éviter un schisme, parce qu'on craint que si la candidate de la Minizuma gagnera la majorité des délégués, le candidat Cyril Ramaphosa avec ses délégués quittera le parti pour établir un nouvel parti de tendance social-démocrate.
Nkosazana Dlamini Zuma et Cyril Ramaphosa ont-ils une vision différente pour le parti ?
Décidé. éléments représentent même des identités nationales un peu opposées. La Minizoum a choisi une identité populiste africaniste. Elle prétend aussi que toutes les ressources naturelles, l'or, le charbon, l'acier, le fer, devraient aussi être nationalisées. En tant que Cyril Ramaphosa, lui, qui nous parvient du mouvement syndicaliste, pas de l'ANC à l'exil, Madame Dlamini Zuma a fait sa carrière dans l'ANC de l'exil. Ramaphosa, lui, il a fait la lutte contre l'apartheid à partir du mouvement des syndicaux. Il veut suivre une approche économique moderne, technocrate, la croissance économique, le renforcement du secteur industriel, l'appui aux entreprises pour, à travers la croissance économique, pouvoir offrir une vision plus encourageante, plus confortable à la grande majorité de la population.
Le choix du prochain leader sera-t-il déterminant pour l'avenir de l'ANC?
Absolument, mais il ne faut pas oublier que nous sommes encore à 2 ans avant les élections. Et le candidat qui sera choisi maintenant par l'ANC, il devra encore, dans les 2 ans à suivre, survivre les obstacles qui vont être provoqués par la faction qui perdra demain. Les deux candidats ont déjà affirmé qu'ils n'accepteront pas la victoire de l'autre. Ceci, évidemment, est préoccupant.
En 2007, l'élection du président de l'ANC avait abouti au départ prématuré de Thabo Mbeki. Le président Zuma risque-t-il le même sort?
Bon, les rationalistes dans le parti sont en train de l'encourager, d'essayer de négocier un exit, une sortie à l'amiable, avec des garanties d'amnistie, des garanties d'indemnité et des garanties financières, et de se démissionner dans les prochains 3 ou 4 mois pour faciliter la transition. Mais nous pouvons deviner que si le candidat Cyril Ramaphosa gagnera demain, Jacob Zuma va refuser de se démissionner, va vraiment insister de compléter son mandat jusqu'aux prochaines élections de 2019. Ce sera mauvais pour le pays. Si c'est clair qu'il y aura une confrontation politique pendant les prochains 24 mois.
Le professeur André Thomas Sarosen de l'Université d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Lionel Gaimia, une présentation Morgane Diriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Après 3 ans d'intenses combats, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé la libération de l'ensemble du territoire irakien de l'emprise du groupe État islamique. Les États-Unis applaudissent le leadership du premier ministre Abadi et nous adressons nos sincères félicitations au peuple irakien et aux courageuses forces de sécurité irakiennes, dont beaucoup de membres ont perdu la vie en combattant héroïquement le groupe État islamique, a déclaré Heather Nauert, porte-parole du département d'État. L'annonce irakienne signale la libération des derniers pans du califat autoproclamé du groupe État islamique et des populations vivant sous son brutal contrôle, a dit Heather Nauert. La libération de l'Irak ne signifie pas pour autant la fin de la lutte contre le terrorisme, ni même contre le groupe État islamique, a tenu à souligner Madame Nauert. Les États-Unis, de concert avec la coalition internationale contre le groupe État islamique, poursuivront le partenariat avec les forces de sécurité irakiennes en les conseillant, en les formant et en les équipant, a assuré la porte-parole du département d'État. Ensemble, nous devons rester vigilants et contrer les idéologies extrémistes pour empêcher le retour du groupe État islamique ou l'émergence de la menace d'autres groupes terroristes, a ajouté Heather Nauert. Durant son occupation de certaines parties de l'Irak, le groupe État islamique a affiché sa nature barbare, décapitation, crucifixion et torture étaient la norme pour les civils innocents, pris au piège dans les villes et utilisés comme boucliers humains. Des hôpitaux, mosquées, universités et des écoles transformées en centres de fabrication et de stockage d'armes et en bases terroristes. En plus des pertes en vie humaine, le groupe État islamique laisse derrière lui un champ de ruines avec un nombre sans précédent d'Irakiens déplacés et une destruction massive des infrastructures. Les États-Unis ont contribué pour plus de 1,7 milliard de dollars à l'assistance humanitaire en Irak et alloué plus de 256 millions de dollars aux efforts de stabilisation de ce pays depuis 2014. En outre, les États-Unis ont fourni 112 millions de dollars aux opérations de déminage et de destruction d'engins explosifs et à la campagne d'information des Irakiens sur le danger des explosifs abandonnés par le groupe État islamique. Nous demeurons engagés aux côtés du gouvernement et du peuple irakien pour les aider à reprendre au groupe État islamique leur pays et leur vie, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.